ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour à tous, vous qui êtes encore à la maison pour notre culte. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous remets les salutations selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et les deux premiers versets. À ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, grâce à la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance, par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. J'aimerais continuer en reprenant la fin des deux épîtres les plus courtes de l'apôtre Jean. Épître 2 de Jean, verset 12. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère ne pas les mettre par écrit, avec le papier et l'encre. J'espère me rendre chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Troisième épître de Jean, versets 13-14. J'aurai encore beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas les écrire avec une plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons alors de vive voix. Il est un fait que nous avons le même désir de nous revoir et de parler de vive voix. Et c'est ce que l'apôtre Jean veut transmettre comme message. À son époque, les lettres permettaient de donner des nouvelles, des recommandations, des partages. Mais Jean préfère parler de vive voix, de bouche à bouche, comme traduit d'autres versions. Alors, il espère pouvoir le faire. C'est aussi notre espoir, même si pendant cette période de confinement, les enregistrements étaient notre manière à nous de nous faire partager le culte. Heureusement aussi que le téléphone et notre PC sont devenus plus que de simples transmetteurs de paroles ou d'informations. Ils peuvent aujourd'hui se faire rencontrer deux et même plusieurs personnes en visuel. Mais il reste une barrière pour se parler de vive voix, ou encore comme Moïse avec Dieu, face à face. Toutes les technologies modernes ne peuvent pas remplacer la communion fraternelle en présence. C'est pourquoi l'Église de Bligny a la volonté de redémarrer ses cultes. Nous étudions pour le moment les possibilités de se revoir pour partager un moment de culte dominical dans notre chapelle. Il est évident que nous serions limités et que, malgré toutes les précautions relatives à la sécurité sanitaire, si plusieurs d'entre vous préféraient rester à la maison, il y aurait toujours un enregistrement disponible sur le site. Mais pour le moment, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous avons le désir de t'honorer, mais nous avons aussi le besoin de nous revoir entre frères et sœurs. Ce coronavirus a essayé de nous séparer, et à la manière de Satan, il nous a empêchés de nous voir et de nous réunir pour te louer. Dans ces moments encore incertains où la prudence reste de mise, nous voulons crier vers toi pour implorer ta protection et demander l'éradication de cette pandémie mondiale. Encore aujourd'hui, tu veux nous parler, tu veux nous instruire, tu veux nous aimer, tout simplement. Nous voulons te remercier pour tant de générosité et de tendresse envers nous qui étions pécheurs. Que ta gloire rayonne dans nos vies, mais aussi dans ce monde à la dérive. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Au psaume 84, verset 10, il est écrit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Imaginons-nous dans une chorale et chantons ce chant avec louange vivante. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs.
Un jour dans tes parvis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis,
Lecture du psaume 22, versets 20 à 26. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente, protège ma vie contre la dent de ces chiens. Délivre-moi de leur gueule de lion et de leur corne de buffle. Ah Seigneur, tu m'as répondu. Je veux donc parler de toi à mes compagnons. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Car il n'a ni méprisé ni rejeté le misérable accablé. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je veux te louer dans la grande assemblée. Devant tes fidèles, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Le psalmiste, qui n'est autre que David, avait le désir d'être délivré et de louer son Dieu dans la grande assemblée avec ses frères et sœurs. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est aussi notre désir à tous que d'être libérés de ce Covid-19 et de nous rassembler dans notre grande assemblée, même si notre local est petit. Notre Seigneur est fidèle et bon pour nous mettre au large. Avant d'entendre ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère Paul, je vous invite à partager ensemble ce chant interprété par Jacqueline. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier.
Chers amis de Blédy, heureux de pouvoir être avec vous par ce moyen. Et j'aimerais, durant quelques instants, commenter ce psaume 150, et qui est vraiment un psaume extraordinaire. Le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Le thème principal de tous nos psaumes, c'est vraiment la louange à Dieu. Et quand on arrive à ce dernier psaume, c'est vraiment le fortissimo de la louange. C'est comme si David essaye de donner un dernier coup de marteau sur le clou qu'il veut absolument enfoncer, inculquer l'importance de la louange. C'est un psaume qui a inspiré de grands artistes, des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, Stravinsky et notre César Franck. Alors, chez David, la louange est vraiment une émanation de l'âme, l'âme qui est assoiffée de Dieu. C'est plus qu'une puissance ou une thérapie pour survivre. Et c'est vrai aussi qu'il y a dans la louange une force de guérison, d'équilibre et de progrès spirituel. Chaque fois que nous louons Dieu, nous ne louons pas nous-mêmes. Vous ne louez pas un homme ou une institution. La Bible nous invite à adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire sincèrement, sans artifice, sans intermédiaire, dans la vérité. Spurgeon a dit « Lorsque nous louons Dieu pour ses grâces, nous les prolongeons. Lorsque nous louons Dieu pour nos misères, c'est déjà mettre fin à nos misères. » La louange est le miel de vie qu'un cœur pieux retire de chaque fleur de la providence. Mieux vaut être mort que sans louange. Alors ce psaume 150 est bien construit. Il y a 5 paragraphes qui répondent à 5 questions précises. La première question à laquelle le psalmiste répond, c'est « Qui devons-nous louer ?» Lorsque nous louons, qui louons-nous ? Et le premier verset donne la réponse. « Louez l'Éternel !» L'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, celui qui était, celui qui est et qui sera l'Éternel présent. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu des patriarches, des prophètes, des apôtres, des chrétiens, le Dieu trinitaire, ce n'est pas Allah. Faut qu'on soit bien conscient qui nous louons. C'est le Dieu de la création, le Dieu de l'univers, l'inventeur de notre âme. Et il nous invite au dialogue. C'est un immense privilège. Le Notre Père aussi commence par la louange. Et c'est une excellente entrée en matière du dialogue avec Dieu. La deuxième question à laquelle l'auteur répond, c'est « Où peut-on louer Dieu ?» Et la réponse est, au verset 1, c'est « D'abord dans son sanctuaire. » La louange fait partie du culte collectif, c'est dans l'Église. Et Dieu appelle ça un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice qui l'honore et lui fait plaisir. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit le psaume 50, le verset 23. Alors, souvent David disait « Je louerai l'Éternel dans la grande assemblée ». Et c'est important d'avoir ce facteur collectif dans la louange, dans le sanctuaire, dans l'Église. Malheureusement, avec le confinement, l'Église est inaccessible, mais les sanctuaires se sont déplacés dans nos maisons. Et c'est dans nos maisons que la louange doit exister. Et puis, en dehors du sanctuaire, c'est dans l'étendue où éclate sa puissance. La louange doit devenir un réflexe qui existe partout, à la maison, au travail, au volant de la voiture, le jour, la nuit. La louange doit devenir une attitude permanente, une disposition du cœur. Puis, on répond à une troisième question. Pourquoi doit-on louer Dieu ? Et tout d'abord, il faut louer Dieu pour ses hauts faits. Au verset 2. Pour ses hauts faits, pour ce qu'il fait. Le texte hébreu nous parle ici des actes puissants de Dieu. Ce mot se trouve 17 fois dans les psaumes. Darby traduit pour ses actes puissants. Et Dieu agit. Jésus a dit « Mon Père agit » et moi aussi j'agis. Jean 5, 17. Dieu est actif. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort, dit le psaume 121, verset 4. Souvent, on prie, on reçoit Et puis on oublie trop facilement de compter les bienfaits de Dieu. Et c'est souvent un problème qui occulte une nuée de bénédictions dans nos vies. Ensuite, il ne faut pas seulement louer Dieu pour ce qu'il fait, mais il faut aussi louer Dieu pour ce qu'il est. Et le verset 2 dit « selon l'immensité de sa grandeur ». Il est important de voir les attributs de Dieu dans sa parole, sa grandeur, sa toute-puissance, son omniprésence, sa justice, sa grâce, son amour, même à travers ses noms composés. Et plus nous sommes conscients de la grandeur de Dieu, plus notre foi sera fortifiée. Alors n'oublions pas non plus qu'il nous sera fait selon notre foi et que notre foi doit s'alimenter par sa parole. Donc même quand Dieu ne fait rien, on peut quand même le louer pour ce qu'il est. Alors la quatrième question, c'est comment devons-nous louer Dieu? Comment? On peut répondre à cette question à partir de verset 3. On doit louer avec expression, avec clameur, parce que le psalmiste va illustrer sa réponse par sept instruments. Le chiffre 7 est souvent le chiffre de la perfection dans la Bible, la perfection divine. Alors, chaque instrument représente un aspect particulier de la louange, et cela est vraiment surprenant. Le premier mentionné, c'est la trompette. Verset 3, « Louez-le au son de la trompette ». L'importance de cet instrument se trouve à travers toute la Bible, jusque dans l'Apocalypse. Alors, l'histoire qui nous vient directement à l'esprit, c'est la prise de Jéricho, avec l'importance des trompettes, quand il est dit dans Josué au chapitre 6. « Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille s'écroulera. » Alors, comment louer Dieu? Avec la trompette retentissante, c'est-à-dire avec détermination, avec force, avec zèle. Il y a là un aspect de déclamation, de proclamation dans la louange. Alors, ce que nous savons sur Dieu, nous le proclamons avec force. Il y a de la puissance dans cette louange-là parce que c'est une louange qui témoigne de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons, de ce que nous expérimentons avec le Seigneur. Alors, il y a un autre instrument, le luth. Verset 3, « Louez-le avec le luth. » Le luth est une petite harpe qui se joue un octave plus haut. C'est un instrument d'ensemble, c'est l'ancêtre de nos banjos et de nos mandolines. Et nous avons dans 1 Samuel un récit assez surprenant sur un ensemble de luths. Samuel avait oint Saül pour devenir roi. Et nous lisons au chapitre 10 de Samuel, versets 5 et 6, que Samuel lui avait promis « Tu rencontreras une troupe de prophètes précédée du luth. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Et au verset 10, nous voyons la réalisation. Et quand il est dit « Une troupe de prophètes vint à sa rencontre », l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Ce qui a fait l'étonnement de tous, il est dit au verset 11, « Qu'arrive-t-il au fils de Kis ? Saül est-il maintenant parmi les prophètes ?» Alors comment louer Dieu avec le luth ? En se joignant aux prophètes, louer Dieu ensemble d'un seul corps. Là, l'Esprit se manifeste, il y a une énergie pour nos âmes. Il existait à l'époque un luth appelé le luth à 10 cordes. Et ce luth, nous l'avons tous, même sans connaître la musique, même sans avoir un instrument musical. Nous avons nos deux mains avec nos 10 doigts pour œuvrer à l'édifice de Dieu, au travail de Dieu, pour l'acclamer dans son temple avec nos applaudissements et même dans nos sanctuaires à la maison pour le louer de tout notre cœur. Le luth de l'unité de la communion fraternelle, c'est là que Dieu bénit. La louange sciée aux hommes droits, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Psaume 33. Ensuite, il est question de la harpe, verset 3. Louez-le avec la harpe. La harpe, à l'époque, ressemblait déjà fort à notre harpe classique, mais avec moins de cordes et moins sophistiquée. L'instrument se caractérise, comme aujourd'hui, par sa douceur. Et il est impossible de jouer la harpe avec agressivité, en se fâchant. David en jouait et certainement qu'il l'employait pour garder les brebis ou pour composer ses psaumes. Il est dit aussi qu'il jouait devant Saül pour qu'il soit délivré d'un mauvais esprit. Ça se trouve dans 1 Samuel 16, verset 23. Lorsque le mauvais esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. La musique adoucit les mœurs, dit-on. C'est certainement vrai quand il s'agit d'une musique spirituelle, inspirée par l'Esprit de Dieu. La louange est comme une musique de harpe. L'esprit de louange fait partir la nervosité, fait partir les tensions. Le chrétien a certainement un ministère d'apaisement à jouer dans le monde et dans l'Église en général. Si vous mettez à la harpe des marteaux et un clavier, ça devient un piano. Le mot piano veut dire douceur. Vous connaissez l'expression « qui va piano, va sano et lontano ». Celui qui va doucement, il va sainement et il ira longtemps. Puis il y a le tambourin. Louez-le, verset 4, avec le tambourin et avec des danses. Le tambourin est un petit tambour qui se tient dans une main. Il sert à entraîner les gens dans le chant. Nous avons un bel exemple dans Exode 15. Quand Israël venait de traverser miraculeusement la mer Rouge à sec, et il est dit au verset 20, « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » C'est aussi le cas pour la louange. A-t-on envie de louer le Seigneur? Quand on nous connaît, quand on nous voit, en nous côtoyant. Il existe une danse qu'on appelle le tambourin, et il est mentionné ici avec des danses, le tambourin avec des danses. Et cela peut être souligné, car David dansait devant l'arche. Et une fois, il est mentionné que Michal se moquait de lui, dans 2 Samuel 6, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Pour David, la louange devait s'extérioriser. De l'abondance du cœur, la bouche parlait et tout le corps parlait. Sa louange extérieure correspondait à une réalité intérieure. Alors il y a les instruments à cordes, verset 4. Louez-le avec des instruments à cordes. Il existait d'autres instruments à cordes, certainement, que le luth et la harpe. Ils appartenaient à la musique populaire et profane. C'est les ancêtres de nos guitares, nos violons et autres instruments à cordes que nous connaissons. Il y a dans les psaumes 10 références à ces instruments, ce qui prouve que c'était vraiment des instruments très populaires. C'était des instruments du peuple, le langage du peuple. Alors comment louer Dieu avec des instruments à cordes, avec nos cordes vocales, avec des mots simples qui viennent du cœur? Inutile de chercher des mots compliqués. Ne vous inquiétez pas de la grammaire. Dieu regarde le cœur. Et il est dit dans 1 Samuel 16, le verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il est mentionné ensuite le chalumeau, verset 4, « Louez-le avec le chalumeau. » C'est l'instrument le plus ancien dans la Bible, parce qu'il est déjà mentionné au 4e chapitre de Genèse, et on nous donne même le nom de l'inventeur, Jubal, qui est descendant de Caïn. Alors c'est une grande flûte, très simple, un tube et quelques trous. Si on assemble plusieurs de ces flûtes à différents calibres, et on installe une soufflerie pour faciliter l'usage, ça devient un orgue. L'orgue. Encore aujourd'hui, combien d'églises n'ont qu'un orgue comme seul instrument. C'est l'ancêtre des flûtes, la flûte de Pan, les orgues, les clarinettes, le saxo. Alors, il y a une chose intéressante que les musicologues ont découvert dans le livre de Job, où il y a deux références pour le chalumeau. Une pour une référence joyeuse, Job 21:12. Les méchants se réjouissent au son du chalumeau. Et une référence qui est plutôt triste, dans Job 30:31, mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Alors les historiens ont déduit que cet instrument se jouait tant pour exprimer la joie, comme par exemple lors d'un mariage, ou pour exprimer la peine lors d'un enterrement en toute occasion. Et combien de textes n'avons-nous pas, surtout dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Paul, et qui nous disent que nous devons louer le Seigneur en toute occasion, rendez grâce en toute chose, soyez reconnaissants. Je ne cesse de rendre grâce, je rends à Dieu des continuelles actions de grâce pour vous. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alors, combien de versets nous avons qui disent que nous devons remercier le Seigneur en toute occasion, bonne ou mauvaise? Et puis, le 7e instrument qui est mentionné, ce sont les cymbales. Verset 5, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Les cymbales sont comme deux couvercles de marmite et qu'on frappe l'un contre l'autre pour marquer la cadence, le rythme. C'est la pulsation de la musique. Ça semble monotone parce qu'il n'y a qu'une seule note, mais il faut jouer sans arrêt. Ça marque la respiration. Alors, comment louer Dieu avec les cymbales, c'est-à-dire avec continuité, avec persévérance? Là, il faut aussi que nous nous examinions. La vie nous a tellement habitués à être négatifs, nous avons souvent adopté un tout autre langage que celui de la louange. Du matin au soir, nous avons pris l'habitude de réclamer, surtout sans même le réaliser. Il faut aller à l'école. Qui a inventé l'école? Il faut aller au travail. Ah! Dès le matin, on se plaint. Le café est trop chaud. On se plaint de tout. On se plaint du gouvernement. Actuellement, c'est terrible. On se plaint des masques. Et puis, on se plaint de la télédistribution quand elle tombe en panne. Quel drame! On oublie, tout à coup, on oublie tous les beaux programmes de télé que nous avons regardés toutes ces années. Alors, nous devons adopter ce langage qui nous est destiné. Nous sommes créés pour adorer. Nous sommes nés de nouveau pour adorer. Nous faisons partie des myriades de l'au-delà qui adorent jour et nuit et dont parle l'Apocalypse. Ici, dans ce psaume, le mot « louer » se trouve exactement 12 fois. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Il y a 12 tribus, 12 pains de proposition, 12 apôtres, 12 portes de Jérusalem, 12 fondations de la cité céleste, etc. La louange sied au peuple de Dieu. Alors, il nous reste un dernier paragraphe qui répond à une dernière question. Qui doit louer Dieu? Le verset 6 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Tout ce qui respire, c'est d'abord nous, évidemment. C'est les humains d'abord. Alors, c'est le chrétien. Parce que ce qui caractérise le non-croyant, c'est qu'il ne rend pas grâce à Dieu. C'est ce que Paul dit clairement dans Romains 1, le verset 21. Ayant connu Dieu, ces non-croyants ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, si nous respirons, si nous avons vu et connu combien Dieu est bon, louons l'Éternel. Nous, les chrétiens, nous qui sommes sauvés par grâce. Puis, qui doit louer encore le Seigneur? Tout ce qui respire, tout le reste, toute la nature entière. On comprend pourquoi et il y a des sons si remarquables dans la nature. Les sons qu'on entend dans le maquis, dans la forêt équatoriale, le chant des oiseaux, le chant des rainettes, que c'est magnifique. Il y a déjà 28 ans que le compositeur Olivier Messiaen nous a quittés. Il avait l'habitude de partir dans la nature avec son petit enregistreur et il enregistrait les chants d'oiseaux, puis rentrait chez lui. Il essayait de les transposer en musique, et c'est ainsi que sont nées de grandes œuvres. Alors laissons-nous transformer par le Seigneur tant que nous respirons. Nous avons reçu un souffle, et nous avons reçu un souffle nouveau, le souffle du Saint-Esprit. Il peut transformer nos mentalités, nos regards sur les choses, notre façon de réagir. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors je termine juste par quelques considérations pratiques. Considérons la louange comme un apprentissage nécessaire. Apprenons à louer Dieu pour ce qu'il est, il est notre Père, il nous a rachetés à grand prix, rien ni personne ne peut nous ôter cette réalité. Louons-le pour la parole, qui est quand même merveilleuse. On peut toujours s'en inspirer, s'y référer, y puiser force, consolation. Louons-le pour Christ, pour son œuvre sur la croix. Louons-le pour l'Esprit Saint qui nous a été donné. Louons Dieu pour sa création. Nous prions trop souvent à l'intérieur et les yeux fermés en plus. La beauté de la nature mérite d'être contemplée parce qu'elle nous parle de la grandeur du Créateur. Louez Dieu pour tout ce que vous avez. Ça vous aidera à moins vous chagriner pour tout ce qui vous manque. On n'est peut-être pas très riche, mais on a un toit, on a de quoi manger, on a une télé, un lit, un vélo, que sais-je. Qui pense à louer Dieu pour son lit? Pourtant, c'est un bienfait du Seigneur. Apprenons à louer Dieu pour ce que nous sommes. on n'a pas toutes les capacités, mais on en a quand même. Remercions Dieu d'encore pouvoir le servir dans nos actions de grâce et dans le témoignage. Louons Dieu pour les gens qui nous entourent. Si c'est vrai, certains nous énervent parfois, mais d'autres font notre joie. Alors louons Dieu pour son peuple, louons Dieu pour son Église. Même dans le confinement, elle continue à exister. Et nous pouvons voir l'Église comme une chance plutôt qu'une charge. Alors voilà quelques simples suggestions. Et le Seigneur pourra nous aider à devenir des adorateurs. Des adorateurs en esprit et en vérité. Prions. Seigneur, nous sommes encore privés de notre sanctuaire, mais nous ne voulons pas nous priver de t'adorer. Merci pour les leçons de ce psaume merveilleux. Oui, Seigneur, nous réalisons nos manquements. Pardon pour notre négativisme, pour notre difficulté de te louer avec zèle, pour notre manque d'adoration sincère. Souffle sur nous un esprit d'adoration, que nos cœurs débordent de reconnaissance. Fais de nous des chrétiens nouveaux. Seigneur, accorde-nous cette nouvelle dimension. Alors que ceux qui nous entourent le remarquent, qu'ils s'étonnent de nous voir différents. Nous voulons saisir cette victoire par la foi, aujourd'hui même. Et que ce soit à ta gloire seule, Seigneur, nous t'avons prié en ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Paul pour ce message édifiant. Je vous disais, dans l'introduction de notre culte, que le désir de la communauté de Bligny était de se retrouver. Et c'est ce qui est ressorti de notre petit questionnaire. Vous êtes nombreux à vouloir revivre un culte en présence. Nous restons quand même attentifs à l'actualité liée à la pandémie et la prudence reste de mise. Le consistoire de Bligny met tout en œuvre pour pouvoir rouvrir les portes de la chapelle dans le courant du mois d'octobre, si les conditions sanitaires le permettent. Comme vous le savez peut-être déjà, la communauté de Bligny est en deuil. En effet, son fondateur, le pasteur Florent Spitz, est parti y rejoindre la maison du Père. Si l'église de Bligny est ce qu'elle est, c'est en grande partie dû à son travail, son dévouement, sa compassion et son amour de Jésus. Nous présentons à son épouse et sa famille nos plus sincères condoléances. Que le Seigneur soulage leur cœur de la tristesse du départ de cet être cher. Je vous donne rendez-vous mardi pour notre moment de prière à la maison entre 19 et 19h30. Recevez la bénédiction. Troisième épître de Jean. J'aurai beaucoup de choses à vous écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère vous voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec vous. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine bénie et je vous propose de terminer ce culte par un chant du groupe Héritage.
Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Thank you. qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh oui. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Qu'un jour mes yeux verront Jésus.